Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, heure de Kinshasa.
En République démocratique du Congo, bon nombre de ménages à faible à revenus bas font face à la pauvreté. Et d'après les experts, la microfinance contribue à la réduction de la pauvreté en favorisant l'accès aux services financiers. Le Fonds pour l'inclusion financière s'appuie sur les institutions de microfinance pour, n'est-ce pas, financer les projets des populations à faible revenu, pour financer les petites et moyennes entreprises. Alors comment bénéficier d'un financement du FM via les institutions de microfinance? On en parle. Nous allons aborder toutes ces questions avec notre invité, Monsieur Carlos Kalambai Kabangu, directeur général du Fonds pour l'inclusion financière en RDC. La première question, quel commentaire vous inspire l'évolution du FPM ces dernières années, Monsieur Kalambai?
Merci pour la parole. Je commencerai par donner un bref historique du FPM. Je sais que on est habitué à entendre mon collègue Jean-Claude. En fait, le FPM, comme vous l'avez dit, est le Fonds pour l'inclusion financière qui a pour objectif principal de lutter contre la pauvreté, mais via un secteur financier qui sain, c'est-à-dire en stimulant les institutions financières qui sont les coopératives, qui sont les IMF, institutions de microfinance, et les banques, à pouvoir octroyer du crédit de façon responsable aux petites et moyennes entreprises. Alors, le FPM a commencé en 2007, dans la partie, la branche assistance technique, premièrement, et financement, renforcer les capacités de ces institutions à pouvoir octroyer du crédit aux petites et moyennes entreprises et d'autre part, pouvoir financer ces institutions. Pendant les 5 dernières années, le FPM a eu une pénétration assez considérable à Kinshasa et à l'est du pays et dans le Bas-Congo. Et c'est depuis l'année passée que le FPM a mis en place son deuxième véhicule, qui est le FPM SA, Société Anonyme, qui est la partie financement, qui a été approuvée par la Banque Centrale en tant que société financière. Et la branche financement a pour objectif tout justement de pouvoir financer ces institutions qui sont déjà prêtes, qui ont tous les moyens techniques et ressources humaines adéquates permettant tout justement à financer le secteur de la PME.
D'accord. Alors comment analysez-vous le rôle de la microfinance et la place du FM aujourd'hui à RDC?
Je pense que si nous devons voir l'historique de l'évolution de la microfinance, j'estime qu'il y a eu un changement positif assez considérable. Parce que nous voyons la croissance rien que de décembre 2013 à juin 2014, nous avons au moins 47% de croissance de l'encours de crédit octroyé aux activités génératrices de revenus. J'estime que le développement en soi et la tendance est assez bonne, mais ce qui a été fait n'est pas assez, pas suffisant. Et il y a encore beaucoup à faire. Mais à ce jour, on sent une dynamique. Il y a 10 ans, on parlait pratiquement pas de crédit. Il y a 10 ans, on parlait pas de microcrédit. C'était plus les papas cartes, c'était les tantines à la cité. Mais aujourd'hui, on doit dire qu'il y a déjà cet engouement. La population est déjà assez consciente. Et même pour les petites activités génératrices de crédit, de moins en moins, on se sent moins gêné de dire qu'on a pris un crédit pour son activité, qu'il y a 10, 15 ans où prendre un crédit était une honte et on devait se cacher et n'est pas le dit. Et les institutions financières ne prêtaient qu'aux grosses structures avec des états financiers audités et et qui répondait aux normes. Mais aujourd'hui, on sent que les institutions financières sont prêtes et le font déjà, prêtes à toutes ces petites activités génératrices de revenus.
Mais aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut, la microfinance peut aider à lutter contre la pauvreté? Il y a des ménages qui ont des faibles revenus, et les gens qui ne savent pas nouer les bouts du mois. Comment est-ce que la microfinance peut les aider?
La microfinance peut les aider, il y a des prérequis. Les aider, c'est tout justement rendre disponible le financement de ces petites et moyennes activités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vu les évolutions des indicateurs macroéconomiques, on sent qu'il y a quand même un certain développement économique assez remarquable, en voyant les publications sous réserve du FMI et de la Banque centrale du Congo, en voyant la croissance de 6% plus ou moins en 2014 et la croissance du PIB aussi, on se dit que l'économie tend à décoller, ce qui fait qu'il y a une certaine croissance de la classe moyenne et du revenu, mais les petites activités génératrices de revenus ont aussi besoin de se capitaliser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand quelqu'un a une petite activité au coin de l'avenue à gauche à droite, il veut renforcer son capital, il veut. Et c'est là que la microfinance intervient pour pouvoir soutenir ces personnes.
Est-ce que ces personnes ont accès facilement? Quelqu'un qui a une boutique, par exemple, dans le quartier, qui a besoin d'un crédit pour renforcer ses activités, est-ce que l'accès aujourd'hui est facile au crédit?
Oui et non. Oui et non, parce que oui, pour les personnes averties, ils savent où toquer. Il y a plusieurs institutions aujourd'hui qui sont prêtes à recevoir ces demandes de crédit.
Lesquelles?
Bon, il y en a beaucoup, hein. Il y a beaucoup des coopératives, il y a beaucoup d'IMF,
institutions de microfinance,
oui. Et des banques aujourd'hui, ce qui est très positif, nous avons des banques classiques qui font ce que nous appelons le downscaling, c'est-à-dire qui aujourd'hui ont ouvert des branches MPME, c'est-à-dire qui font des financements aux micro, petites et moyennes entreprises aussi.
C'est l'info. Et le FPM ne travaille pas directement avec les bénéficiaires. Vous travaillez plus avec ces institutions-là qui sont en contact avec la population.
Oui, nous travaillons avec ces institutions qui sont en contact avec la population sous deux angles. Premier angle, c'est par rapport à l'assistance technique. Pourquoi? Bon, peut-être pour répondre à ta question, j'ai parlé de la partie oui, mais la partie non, c'est la connaissance du secteur et comment est-ce que ces institutions ont l'information. Avoir l'information et aller toquer dans une coopérative ou une institution de microfinance ne suffit pas, mais il faut se préparer à être éligible. Et du côté des institutions, eux aussi doivent avoir un service adapté à servir ce type de clientèle. Et le rôle du FPMSA dans sa partie ASBL, assistance technique, c'est donner les moyens techniques à ces institutions de microfinance pour pouvoir dessiner des produits qui sont adaptés à ces petites activités. Mais d'autre part aussi, c'est... petites activités ou ces petits entrepreneurs doivent avoir l'information comment être éligibles au niveau de ces institutions de microfinance. Ça, c'est la partie assistance technique, mais l'institution peut avoir la volonté de le faire, mais il n'a pas les moyens pour financer ces institutions. C'est là qu'intervient le deuxième véhicule du FPM, qui est la partie financement, le FPM-SA, qui peut mettre à disposition de ces institutions des fonds qui, à leur tour, pourront servir à au financement des petites activités génératrices de crédit. Donc aujourd'hui, il y a quand même des portes où ils peuvent toquer, mais il est vrai que les conditions restent toujours un peu obscures et l'information ne passe pas toujours de façon symétrique entre et d'une part les acteurs qui sont les micro-entrepreneurs et d'autre part les institutions financières.
Nous avons déjà trois auditeurs en ligne. Valentin nous appelle de Kananga, Clément est à Kalemi, Ismaël Mupoy est à Lubumbashi. Vous voulez également participer, appelez-nous 081 890 63 94.
À la découverte du Congo dans ses différentes facettes, c'est possible. Des histoires inédites d'expériences des Congolais, mais aussi de tous ceux qui, venant d'ailleurs, ont choisi le Congo comme seconde patrie. Un focus sur des métiers anciens et nouveaux déclinés à l'infini, fruit de la débrouille qui tient tout le secteur informel. Oui, c'est Zigzag. Rejoignez sans plus tarder l'équipe de Zigzag sur Radio Okapi, chaque samedi à partir de 15h, heure de Kinshasa. Et parcourons ensemble les coins et recoins du Congo profond. Zigzag, c'est Radio Okapi en balade.
Comment lutter contre la pauvreté par l'octroi des microcrédits? Valentin, vous êtes à Kalanga, bonjour.
Oui, bonjour à la Radio Okapi.
Quelle est votre question?
Oui, ma première, j'ai eu une première préoccupation qui est la suivante. Pouvez-vous me donner une différence qui existe entre une institution et une banque? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question est la suivante. Quelle différence encore qui existe entre une institution de microfinance et une banque commerciale?
D'accord, merci. Clément, vous êtes à Calémie, bonjour.
Et bonjour, monsieur Jedi, c'est Clément, dit student de Calémie au Katanga.
Quelle est votre question?
Moi, je voulais demander, parce que je peux vouloir créer mon entreprise. Maintenant, est-ce que je peux faire tout simplement, je me réveille un certain matin, comme j'ai bien mangé hier, il faut que je puisse venir créer mon entreprise. La deuxième question. Pourquoi ici à Calémie, on ne sait pas ces problèmes de microcrédit? Parce que c'est cela qui serait à mesure de faire à ceux qui n'aient plus de la pauvreté dans notre milieu, mais on ne parvient pas à faire cela. C'est pourquoi j'ai voulu demander qu'on puisse me répondre concernant toutes ces deux questions.
Merci. Merci Ismaël Mumpoy, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour, je dis Daniel Kacham à tous les auditeurs.
On vous écoute. Hein.
Ok, ma première préoccupation était de savoir... entre le fonctionnaire et le commerçant, quel est le pourcentage élevé par rapport à d'autres? Mon inquiétude était juste de savoir réellement si dans des certains points, ce genre de l'aide est instaurée. Je demandais par exemple ici quand l'Eurobank avait commencé ce système, avait dit que c'est seulement ces fonctionnaires qui devaient avoir l'accès à ces microfinances. C'est ça une des difficultés. Par exemple, si vous faisiez le rapport entre le Kasaï, le Katanga, soit c'est seulement dans de grandes villes, comment et quand tu fais un peu le pourcentage d'été qui ont l'accès à ces crédits, si 100%, ils peuvent avoir combien de pourcentage de ceux qui ont déjà accès à ces crédits? Et en plus de ça, mais pourquoi aussi le délai et la date de remboursement est très vraiment proche? C'est ça ce qui fait pourvu que les gens ne puissent pas aussi s'adhérer à ce système. Merci beaucoup.
Bien, merci. Revenons d'abord à la question de Valentin et Kananga qui dit quelle est la différence entre une institution des microfinances et une banque et tout court et une banque commerciale, monsieur Carlos.
Oui, le secteur financier, pour ne pas dire le secteur bancaire, est divisé en plusieurs catégories par la Banque Centrale du Congo. Il y a les banques commerciales qui sont une catégorie spécifique. Nous avons qui se regroupent au sein de l'ACB, qui est l'Association Congolaise de Banques. Nous avons les IMF, et dans les IMF, nous avons trois catégories d'IMF. La première et deuxième catégorie, qui est la troisième qui peut être une sous-catégorie de la deuxième. Dans la première catégorie, ce sont les IMF sont les institutions de microfinance qui ont un capital minimum requis qui est inférieur à celui des banques commerciales. Les banques commerciales ont un capital minimum de près de 10 millions et tandis que au niveau des IMF, le capital minimum est inférieur, de loin inférieur à 10 millions. Mmh. Dans les IMF de première catégorie, ils ne peuvent qu'octroyer du crédit sans collecter l'épargne. Et celles de deuxième catégorie peuvent octroyer l'épargne et en même temps faire du crédit. Bon, nous avons aussi les coopératives qui sont les COPEC et les COSEC dans cette catégorie. Mmh. Donc une IMF est une institution de microfinance réglementée par la loi sur la microfinance de la Banque centrale, pendant qu'une banque commerciale est une catégorie qui est aussi qui a des réglementations spécifiques basées sur le fonctionnement des institutions bancaires.
Voilà. Clément nous dit, à Calémie, ils n'ont pas accès au microcrédit. Et puis, il se demande, est-ce qu'on peut se réveiller un bon matin parce qu'on a bien mangé hier et créer son entreprise?
Exactement. C'est ce que nous disions tout au début. Pour accéder au microcrédit, il y a une préparation qui est faite. C'est-à-dire, c'est pas tout celui qui termine ses études de l'université qui doit être engagé dans une entreprise. Mais aujourd'hui, il faut commencer quelque part. C'est-à-dire, il faut avoir un projet. Il faut le rendre éligible. C'est vrai que c'est un point qui, à ce jour, n'est pas très exploité par nos institutions de microfinance, c'est-à-dire le financement de projets. Là, je crois, ce sont des questions ouvertes et ce sont des domaines inexploités, mais n'empêche que les personnes puissent se préparer. Je pense que même pour commencer sa petite activité, il faut avoir un projet. Il faut étudier le milieu, étudier le secteur. Dans quoi tu te lances? Quelle est la concurrence tout autour? Est-ce qu'il y a une demande par rapport au produit que tu veux vendre? Il y a des petites notions de base, des prérequis avant de pouvoir présenter un projet finançable au niveau d'une institution financière. Donc, on peut pas se lever un bon matin et dire « Ok, j'ai besoin d'un crédit pour une activité X.
» Et Ismaël nous dit que Aide Lumbashi dit qu'il a l'impression que ce sont les fonctionnaires de l'État qui ont facilement accès au crédit, au microcrédit, plutôt que les autres.
Oui, peut-être avant d'arriver à cette question, on peut répondre à sa deuxième sur l'absence de ce service à Calémie. Je pense que ça, c'est l'un des rôles du FPM qui est celui de renforcer l'inclusion financière. Alors, ce qui est fait au niveau du FPM à SBL dans la partie technique, c'est qu'ils organisent des études du marché afin de permettre à ces institutions de microfinance de pouvoir cibler les opportunités d'affaires. Je prends le cas de l'année passée où des études ont été faites à Kikwit où aussi il y avait pratiquement rien. Ces études ont été présentées à certaines institutions de microfinance et en ce jour ils sont implantés là-bas et présentement ils sont au niveau de Kananga et un peu vers le nord en train de faire des études du marché pour tout justement présenter ces opportunités d'affaires à ces institutions de microfinance. Par rapport à la question
sur... les fonctionnaires qui ont accès facilement au microcrédit.
Oui, là, il se pose aussi ce problème dans le secteur de garantie.
Parce que même ces institutions ne donnent pas l'argent facilement
aux petites et moyennes
entreprises.
Oui, vous savez, même quand nous devons parler des banques, quand nous avons parlé d'institutions financières, il faut savoir à qui s'adresser. Nous avons des institutions bancaires qui sont des corporates, faites pour des grandes entreprises, faites pour les moyennes entreprises. Il y a des institutions qui sont faites pour des particuliers, c'est-à-dire des crédits à la consommation. Mais on a aussi des institutions, principalement les IMF, qui sont là pour le financement des microcrédits et des micro-entreprises. Donc, chaque institution a une spécificité. Là aussi, c'est une éducation qui doit être faite pour apprendre aux gens à qui s'adresser et à quelle porte on est en train de toquer. Ça arrive qu'on toque à la mauvaise porte et qu'on n'ait pas accès facilement au crédit. Mais c'est vrai qu'avec les fonctionnaires, une institution qui a pour mission le financement du crédit à la consommation passerait facilement par un fonctionnaire qui a un revenu régulier
et qui a un compte chez lui,
il sait maîtriser, le canaliser. Ce qui est un peu plus compliqué avec les petites activités génératrices de revenus. Et c'est ce que j'ai dit, il faut que celui qui monte son activité se prépare à être éligible, c'est-à-dire le minimum avoir des activités, avoir un ménage stable, avoir une activité plus ou moins stable, le minimum de la formalisation, la documentation requise. Mais quand quelqu'un arrive auprès d'une banque demander un crédit, il lui manque déjà une pièce d'identité, il n'a aucune activité, aucun document, même pas une patente pour une activité, ça rend les choses un peu complexes pour être éligible.
D'accord, on va accueillir Youssouf de Kisangani, bonjour.
Oui, bonjour.
Quelle est votre question?
Oui, ma question est celle-ci. J'aimerais savoir, pour accéder à un crédit des IMF, il faut avoir au minimum au moins quel cote, le capital de combien? Parce que nous qui sommes dans l'intérieur, nous avons aussi besoin de s'épanouir à travers nos petits commerces, tels que les gens qui vous vendent les unités. Je suis allé une fois solliciter un petit crédit parce que je suis étudiant. On me demandera de donner de donner quelque chose à gage de ça, 50% du crédit demandé. Pendant que moi, je suis un petit commerçant, je ne dispose pas ce bien-là. Alors, je m'aurais demandé à l'invité, que peut-on nous faire, nous qui cherchons à s'épanouir, nous nous donnons la volonté de rester sur la rue, vendre les petites choses pour s'épanouir. Qu'est-ce que nous devons faire à ce niveau-là?
D'accord, merci. Merci Youssouf. Monsieur Carlos, une question. Quels seraient les ou les faits marquants de l'exercice 2014, particulièrement représentatifs des ambitions du FM AESA?
Je l'ai pratiquement dit en passant par rapport en 2014, c'est la création du deuxième véhicule du FPM SA qui est sa partie financement où avec un capital de près de 25 millions pour le financement des institutions financières qui ont pour clientèle cible tout justement les très petites et moyennes entreprises.
Et comment se fera ce financement?
Nous fonctionnons un peu, c'est comme un fonds d'investissement, c'est-à-dire nous ciblons les institutions qui ont pour mission tout justement de financer les très petites et moyennes entreprises. Et comme vous le savez, que ce soit les banques, les institutions financières, ils doivent se refinancer quelque part. Alors nous les contactons, nous voyons leurs critères d'éligibilité, il y a des analyses qui sont faites à notre niveau, et quand nous estimons que ils ont la clientèle que nous ciblons, premièrement. Ils ont les activités. Nous tenons compte de la portée sociale de l'activité. C'est ça la particularité. C'est-à-dire, il n'y a pas que les aspects financiers, avoir une institution financière rentable, la profitabilité, mais est-ce que l'institution tient compte des aspects sociaux? Et en ce moment-là, nous pouvons octroyer le crédit à l'institution, mais nous faisons un suivi pour nous assurer que le crédit soit affecté uniquement au secteur de la microfinance et de la petite et moyenne entreprise.
Et ces institutions vont, après avoir fait les bénéfices, ils doivent vous rembourser l'argent.
Évidemment, c'est un prêt, c'est pas un don.
C'est un prêt, ils vont rembourser avec des bénéfices, des intérêts.
Non. Et évidemment, il y a des intérêts. Parce qu'il faut que le fonds fonctionne. Tu as toujours besoin, tu as des coûts à couvrir, mais ce sont des intérêts. Aujourd'hui, ces institutions se financent à l'extérieur, parce que d'où leur viennent les capitaux, c'est à l'extérieur. Mais si aujourd'hui il y a un fonds local au Congo qui peut leur octroyer le crédit, ça facilite la tâche à ces institutions, mais aussi ça stimule le crédit aux très petites et moyennes entreprises auprès de ces institutions, parce qu'ils savent où se ressourcer.
Voilà par exemple Youssouf qui nous appelle de Kisangani. Il a sa petite moyenne entreprise, mais il s'est dit avec il faut avoir au minimum combien pour accéder à un crédit bancaire. Et parfois il va demander le crédit, on lui dit qu'il faut un gain. Il faut une garantie.
Oui, je pense que il y a à boire et à manger dans sa question qui est très intéressante, parce que d'une part, les institutions de microfinance ou financières doivent se protéger, mais d'autre part aussi, il y a ces projets, ces petits commerçants qui ont accès mais qui n'ont pas les garanties nécessaires. Je crois que ça c'est aussi le vrai problème. Mais ça dépend d'institutions, comme je l'ai dit, à quelle institution il s'est adressé. Il y a des institutions dans ce pays qui octroient de tels crédits, par exemple des crédits de groupe où ils constituent de groupes et le groupe constitue une certaine garantie. Et il y a des institutions qui le financent. Peut-être qu'au niveau de son environnement, il n'y a pas encore ce type d'institution, mais on peut toutefois s'adresser. Mais le problème reste réel, le problème de la garantie, beaucoup plus basé sur l'identification et de la personne et de l'activité, qui reste un problème pour ces institutions. Et là, je pense qu'il faudrait que l'État intervienne pour baliser un peu le chemin dans ce domaine.
Quelle est votre vision de l'avenir, tenant compte entre autres des perspectives économiques, mais également du développement du secteur financier, hein, RDC, et en particulier des cellules de la microfinance?
Je reste très positif. Comme je l'ai dit au début, en voyant cette croissance de 47% l'année passée, de 2013 à 2014 dans le secteur, je me dis le développement est fort probable dans le secteur. Et nous, dans le FPM, nous avons projeté d'injecter autour de 13 millions de dollars rien que dans le secteur de la microfinance, en passant par les institutions financières. Et je me dis que avec cette stabilité économique qui crée cette classe moyenne, il y a beaucoup de potentialités de croissance dans le domaine. Il est question, ce que moi je conseillerais par exemple à Monsieur Youssouf, de se préparer, comme je l'ai dit, en préparant de projets, en prenant le temps de rendre sa demande de crédit bancable ou finançable.
Héritier nous appelle de Kaminan, dans la province du Katanga. Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Quelle est votre question, héritier?
Bon, moi, mon avis, c'est que cette lutte contre la pauvreté est vraiment un faux débat. Pourquoi je dis ça? Parce que nous constatons que ce sont ces mêmes banques-là qui, par contre, favorisent cette pauvreté par le taux d'intérêt très exagéré qu'elles imposent, bien sûr, à ceux qui sollicitent. Bon, c'est vraiment un fait que nous vivons ici à Kamina, particulièrement.
D'accord. Donc, vous dites que ces banques appauvrissent davantage la population en exigeant des taux, des intérêts très élevés. Qu'est-ce que vous voulez dire?
Oui, oui, très élevés.
D'accord.
Oui,
oui. Monsieur Carlos.
Oui, je pense que le fonds, qui est le fonds pour l'inclusion financière en RDC, a aussi cet objectif de pouvoir pousser les institutions à avoir l'aspect social du financement et du crédit. Dans cet aspect social, nous parlons aussi de la protection du consommateur final. Il faudrait que le taux d'intérêt soit acceptable et permette à l'activité génératrice de revenus non seulement de rembourser le prêt et les intérêts, mais aussi de pouvoir fonctionner. Parce que tu ne peux pas emprunter de l'argent et rembourser le double alors que ta propre rentabilité est inférieure aux intérêts que tu pourrais générer avec ce qu'on te donne. Je pense que ça, c'est un cheval de bataille qui est en train d'être fait. Il y a aussi beaucoup d'institutions qui offrent aussi des taux acceptables. C'est comme un marché où vous entrez, comme je dis, il faudrait qu'il y ait une éducation qui est faite où les personnes doivent savoir à quelle institution s'adresser. Et je pense que le consommateur final, qui sont les micro et petites entreprises, doivent pouvoir être en mesure de lire la tarification d'une institution financière. Parce que ça aussi, c'est un deuxième examen. On a le taux d'intérêt, on a la commission qui est fixée, on a les frais administratifs. On peut avoir un taux d'intérêt qui paraît être inférieur à l'autre, mais derrière ce taux d'intérêt, vous avez d'autres frais. Nous parlons du taux effectif qui est fixé. Et là aussi, il faudrait qu'il y ait cette analyse. Mais je comprends très bien l'orateur parce que à ce jour, ils n'ont pas beaucoup de choix. C'est-à-dire que
c'est l'institution là.
Non, les micro et petites entreprises, c'est-à-dire que tu ne trouves pas 3-4 institutions qui t'offrent la même chose et que tu peux faire une comparaison, c'est le premier qui accepte et on saute dessus, mais ça demande aussi une éducation financière qui doit être faite. Mais cela aussi est lié à la structure du coût opérationnel de ces institutions. Comme je dis, le problème de lutte contre la pauvreté via la microfinance ne peut pas être résolu seulement par le secteur financier, mais je pense que c'est une lutte aussi au niveau macroéconomique, où un assainissement doit être fait par rapport à la fiscalité, par exemple. Ces institutions de microfinance, je suppose qu'ils ont une pression fiscale qui est plus ou moins équivalente à toutes les autres entreprises.
Et cela retombe sur les clients, la clientèle.
Oui, à la fin. Et vous avez le coût de fonctionnement naturel des institutions ici au Congo qui est très élevé. L'électricité, l'eau, le groupe et tous ces aspects, le coût élevé de la vie a une répercussion sur le coût. C'est vrai que la tendance et la pression aujourd'hui est que les coûts tendent, le prix du prêt puisse tendre vers la baisse, d'une part, mais ça sera encore plus bas s'il y a une vraie implication de l'homme politique.
Quel message vous avez pouvez adresser aux institutions des micro, aux institutions financières qui vous suivent en ce moment?
Oui, je dirais que nous sommes le FPM, ok, nous sommes très disposés à aider les institutions financières qui ont pour clientèle cible les micro, petites et moyennes entreprises, d'une part dans la partie assistance technique, renforcer les capacités à l'interne de pouvoir s'adresser et satisfaire à la demande de ces institutions, mais d'autre part aussi leur donner le financement nécessaire qui leur permettrait de pouvoir à leur tour octroyer du crédit à ces très petites et moyennes entreprises.
Alors pour qu'une institution obtienne les financements auprès de votre institution, quelle est la procédure à suivre?
Oui, ils peuvent nous contacter directement via le site ou au niveau de l'adresse email administration@fpm.cd. Et à partir de là, nous allons entrer en contact avec eux. Il y a un petit formulaire à remplir. Après qu'ils aient rempli ce formulaire, nous allons leur envoyer les conditions de prêt. Et si cela est satisfaisant, nous allons descendre sur terrain, faire une analyse de l'institution, s'assurer que l'institution respecte en plus des critères minimums de rentabilité, mais aussi tient en compte des aspects sociaux dont nous venons de parler.
D'accord.
Tout à
Et le site internet, c'est
www.fpm.cd.
On va terminer avec la question de Massoudi de Colézi. Bonjour.
Bonjour, monsieur Soudi. Bonjour à l'invité.
Quelle est votre question, Massoudi?
Ma question est celle de... Je dois rejoindre mon ami qui a appelé ici de Kamina, disant que les banques commerciales sont là pour appauvrir le plus la population. Pourquoi, monsieur le journaliste? J'ai un frère qui a sollicité du crédit à Lubumbashi dans une banque commerciale, mais malheureusement, le temps qui lui a été accordé n'a pas permis à ce que l'homme-là puisse... travailler avec cet argent et rembourser. Alors, arrivé le délai là qu'on l'avait donné, la banque est venue et ils ont pris tous les espoirs qui se trouvaient dans leur maison. Alors, bon, par là, qu'est-ce qu'on peut dire, on peut conclure? Les banques là, sont là pour appauvrir ou bien pour enrichir la population?
D'accord, merci. Monsieur Carlos, quelques secondes.
Oui, merci Monsieur Massoudi pour ta question. Je répondrai en deux volets. Premièrement, dans le chef du client, de l'entrepreneur, comme je l'ai dit, il faut une éducation. Ils doivent être en mesure d'analyser l'offre qu'on leur donne pour le crédit. Parce que le taux d'intérêt que tu rembourses ne peut pas être supérieur à ton taux de rentabilité. J'emprunte 100 dollars. On me demande de rembourser 150 dollars, mais quand dans mon activité j'investis 100 dollars, je gagne 20 dollars. D'où te proviennent les 50 dollars que tu rembourses? Je pense que ça aussi c'est une étude d'abord qui doit être faite au niveau même du chef de l'entrepreneur et pouvoir être en mesure de dire non à ce taux, je ne prends pas parce que je ne pourrai pas rembourser. Et aussi, je parlerai du respect d'engagement. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à respecter leurs engagements. On lui donne un prêt, il en profite pour s'acheter un téléviseur, une nouvelle radio, et il dit l'activité va rembourser. Et ensuite, on se trouve en cessation de paiement. C'est-à-dire qu'on a signé le contrat, on s'est dit être en mesure de rembourser. Mmh. Bon, dans le chef des institutions financières, là, je pense que la lutte reste à pouvoir s'assurer que les taux ne sont pas usuriers et que le taux est un taux acceptable permettant à l'entrepreneur de pouvoir rembourser.
Bien, merci monsieur Carlos Kalambaye Kabangu. Je rappelle que vous êtes le directeur général du Fonds pour l'inclusion financière RDC et Société Anonyme. Merci, à la prochaine.
Merci.